Septième lettre à sa mère. Rome, 12 avril 1850. Voici sans contredit, chère mère, une des plus intéressantes journées que j'ai passées à Rome. La Rome ancienne, avec ses majestueuses ruines, la Rome italienne et artistique, avec ses mœurs poétiques, ses chefs-d'œuvre de peinture, de sculpture, d'architecture, m'était bien connue. Mais je n'avais pas vu encore la Rome pontificale, avec ses cérémonies papales, ses cortèges de prélats et de cardinaux, de légats, d'ambassadeurs. Je la connais maintenant, et elle a très vivement piqué ma curiosité. La rentrée de Pie IX a dépassé en splendeur, en éclat, en magnificence, tout ce que rappelait de mémoire d'homme les fastes de l'ancienne cour romaine. Il nous est impossible, à nous Français, avec nos habitudes graves, sérieuses, occupées, d'imaginer ce que c'est qu'une fête italienne, surtout une fête romaine. Ce peuple possède à un degré supérieur le talent de l'ornementation et des pompes extérieures. Rien n'égalait la grâce des draperies, des festons, des girandoles, qui décoraient la façade de toutes les maisons tout le long du parcours pontifical. Ces innombrables soieries ou tapisseries suspendues à chaque fenêtre et mêlant leurs mille couleurs, quand elles étaient agitées par le vent, formaient un des spectacles les plus gracieux qui se puisse voir. J'ai suivi, pour jouir de ce beau spectacle, un plan dont je me félicite beaucoup. Je suis allé d'abord me placer au péristyle de Saint-Jean de Latran. Le pape devait faire son entrée par la porte située vis-à-vis. J'ai parfaitement joui de ce premier coup d'œil, qui a été le plus beau de tous. Cette immense place, ordinairement déserte, et d'où l'œil jouit de la plus admirable perspective, offrait à ce moment un spectacle indescriptible. Une foule compacte couvrait les champs, les ruines, les remparts, le toit des maisons environnantes. Les brillants uniformes, l'état-major français dans tout son éclat, les équipages d'ambassadeurs, tout le sacré collège avec leurs robes rouges et leurs hermines, les insignes pontificaux, les flabelli, immenses éventails qu'on porte à côté du pape, les ombrelles, parapluies gigantesques qu'on porte derrière lui, tout le clergé romain, tous les ordres religieux, le chapitre de Saint-Jean de Latran, tout cela s'étendant pêle-mêle dans cette vaste plaine aux détonations répétées du canon et au milieu des « Viva !» et des cris « Benedizione !» de la foule, agitant ses mouchoirs, formait un spectacle qu'il faut avoir vu pour se le représenter. Le pape a été reçu à sa descente de voiture par le général en chef, puis il est entré faire une pause dans la basilique. Pendant ce temps, j'ai pris les devants, et remontant toutes les rues qu'il devait traverser, qui étaient richement tendues et ornées de fleurs, de myrtes et de lauriers, j'ai pu jouir de l'aspect de la population qui faisait haie d'un bout à l'autre et des jolies romaines qui garnissaient les fenêtres et les balcons en costume d'été. Je suis arrivé ainsi à Saint-Pierre, où j'ai encore eu le temps de prendre une bonne place sous la colonnade en attendant l'arrivée du pontife. Le coup d'œil de la place Saint-Pierre ne le cédait pas à celui de la place de Latran. L'horizon étant moins étendu, le plan de cette vaste esplanade légèrement inclinée permettait aux masses de s'y déployer d'une manière grandiose. Les gigantesques proportions de l'église et de la coupole couronnaient cet ensemble d'une façon admirable. Le carrosse du pape s'est arrêté, au bas des degrés, puis avec tout son cortège il est entré dans l'immense basilique, où bientôt la foule l'a suivi pour le Tédéum solennel. Quand on ne connaît pas le facile enthousiasme des Romains, leur humeur légère, changeante, leurs accès de joie, le délire de leur fête, qui va presque jusqu'à la folie, on ne peut se représenter l'entraînement, la bonne humeur, la vivacité qu'ils déploient dans ces occasions solennelles. À chaque pas, ce sont des chanteurs en plein vent qui improvisent des vers nouveaux, des orchestres populaires, des boutiques et restaurants de feuillage où l'on va joyeusement s'attabler, des inscriptions pompeuses apposées au mur, des tableaux, des statues, des bustes entourés de guirlandes de feuillage. Le soir, la ville entière, illuminée à giorno, avec un art que nous ne connaissons pas, produit un effet magique. Le Borgo, surtout, avec ses arcades innombrables de lampes transparentes, est d'un coup d'œil ravissant. La coupole et la façade de Saint-Pierre, toutes dessinées en lumière, le Monte Pincio, le Capitole, sont aussi des plus belles choses qui se puissent voir. Mais ce qui charme surtout l'étranger, c'est l'aspect de cette population, si impressionnable, enivrée de ces beaux spectacles, et traduisant son enthousiasme avec une naïveté dont rien n'approche. Ce sont des enfants. Ils en ont la vive ardeur et aussi les caprices. Car hélas, il faut bien le dire, il y a un an, ils faisaient des illuminations tout aussi belles pour Garibaldi et pour la déchéance de Pie IX. Quoi qu'il en soit, il paraît que la réconciliation est faite, car jamais on n'a tant crié « Viva Pio Nono !» Jamais on ne lui a demandé si dévotement sa bénédiction, en attendant qu'il leur prenne encore fantaisie de le prier de partir. Cet excellent homme, avec sa bonne et douce figure, et ce charmant petit sourire qui ne le quitte jamais, a été le roi de la fête. Les sympathies des dames lui paraissaient particulièrement acquises, et les fleurs qu'on lui jetait partaient en général de fortes élégantes mains. Quant aux Romains, ils sont toujours heureux d'avoir à mettre au vent leur belle tenture et d'allumer leur lampion, n'importe pour quelle raison et pour qui. Ils brûlent encore, pendant que je vous écris ces lignes, tout plein des émotions de cette journée, mais bien désireux aussi d'aller prendre un peu de repos après tant de fatigue. 13 avril. Une autre nouvelle importante maintenant, chère mère, c'est que je vais probablement entreprendre le long voyage de Venise, auquel j'avais d'abord renoncé. Mon voyage scientifique serait sans cela incomplet. J'ai là encore à faire des recherches très importantes et on m'y invite très instamment de Paris. Ce voyage est un peu long, chère mère, mais il est assez facile. Je prendrai à Rome un vetturino, c'est-à-dire une voiture et un postillon à mes ordres, et en prenant ma route pour les légations, je serai porté en 7 jours et demi à Ravenne. 7 jours et demi, direz-vous, c'est effrayant. Rassurez-vous, on va à petite journée, on s'arrête toutes les fois qu'on trouve quelque chose d'intéressant, à la cascade de Terni, à Lorette, à Ancône, etc. Et on ne voyage jamais de nuit. Cette manière est très peu fatigante et peu coûteuse. Tout compté, ce long trajet ne revient pas à 50 francs. J'aurai d'ailleurs des compagnons de voyage, si j'en veux accepter, à mon choix. Les villes par lesquelles je vais passer sont Terni, Spolète, Foligno, Tolentino, Macerata, Lorette, Ancône, Fano, Pesaro, Rimini, Cesena, Forlì, Faenza, Ravenne. Je m'arrêterai quelques jours, puis je me rendrai à Bologne, où je ferai un plus long séjour, puis à Ferrare, puis à Padoue, où je resterai encore, puis à Venise. Après avoir exploré Venise, je reviendrai en traversant le royaume lombard-vénitien par Vicence, Vérone, Brescia, Milan. Après un séjour à Milan, je gagnerai Turin, puis la France. Voilà donc un changement considérable à mon itinéraire, chère mère. Mais ce voyage est bien facile. Une fois les montagnes passées près de Terni, ce n'est plus qu'une plaine. Il y a d'ailleurs beaucoup de chemins de fer en Lombardie, ce qui abrège beaucoup la route et la rend plus économique. Je compte partir dans 8 jours, à peu près, de sorte que je serai, je l'espère, de retour à Paris vers la fin de mai. Je ne ferai pas de bien longs séjours dans les villes diverses où je m'arrêterai. Grâce au supplément d'indemnité que m'alloue le ministère, mes finances y seront d'ailleurs plus que suffisantes. Voilà donc un grand et beau voyage pour le bouquet de mon exploration. Ces routes sont d'ailleurs très fréquentées par les voyageurs étrangers, et je ne manquerai pas de compagnons. Je vous écrirai bien souvent de toutes les villes où je m'arrêterai, et encore une fois bien certainement avant de partir de Rome. Mais hélas, je n'aurai probablement pas le temps de recevoir la réponse de celle-ci. Adressez-moi donc, chère mère, votre prochaine lettre, poste restante à Bologne, si vous me faites le bonheur de m'écrire de suite, et si vous tardez un peu, poste restante à Venise. Peut-être même voudrait-il mieux en tout cas l'adresser à Venise, où je ferai un plus long séjour. J'ai reçu il y a quelques jours une excellente lettre d'Henriette. Elle est probablement maintenant à Varsovie. Adieu, excellente mère. Mille amitiés à mon oncle, à ma tante et au cher Alcide. Alain et Fanny savent ma vive affection et vous, excellente mère, ne doutez jamais de l'inaltérable tendresse de votre fils, respectueuse et chérie. Ernest Renan.